la science de l'attribution. Ça fait paniquer un peu. Parce que là, vraiment, surtout cet été, on s'en est rendu compte. Ce qui s'est passé en Gironde, les gros orages, la grêle, ce qu'il y a eu au Pakistan, enfin, ça fait très peur.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Une heure pour décrypter notre époque avec le sourire autour d'une notion, d'un mot, parfois d'une expression qu'on entend souvent dans l'actualité sans toutefois savoir exactement à quoi elle renvoie. Aujourd'hui, on pourrait présenter les choses de manière rassurante en disant qu'on va parler météo. En réalité, ça va être un peu plus compliqué que ça puisqu'on va se pencher sur ce qu'on appelle la science de l'attribution. Une science qui a émergé ces 10 dernières années et qui, pour vous la faire très courte, étudie les liens entre changement climatique et événements météorologiques. Autrement dit, une science qui cherche à savoir en quoi le changement climatique a modifié la gravité, l'intensité et la fréquence de tel ou tel phénomène. Je tiens à dire qu'il s'agit là d'un sujet qui a fait l'unanimité dans l'équipe de Zoom Zoom Zen, moi pour des raisons de curiosité intellectuelle et de soucis sincères pour notre planète, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, pour des raisons plus personnelles, égoïstes, de planification de ses vacances d'hiver au soleil. Vacances dont il compte visiblement profiter en solo, en tout cas pas avec Manon, vu ce qu'il lui a dit tout à l'heure à la cantine.
J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais?
Pourquoi? Tu veux m'emmener?
N'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort.
C'est toujours une belle manière de formuler les choses. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël.
Je vois qu'on hésite encore sur la destination.
On hésite.
Peut-être que la science de l'attribution vous permettra d'affiner votre choix.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Avec nous en studio, comme chaque après-midi, nos fidèles Zoom Zoomers. Bonjour Manon Mariani, bonjour Quentin Lhuy.
Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Alors Manon, on s'en doute, votre week-end n'a pas dû être de tout repos après la diffusion vendredi dans notre émission de ce bijou électropop concocté dans votre home studio.
Oh là là.
Eh oui, c'est bon que nos auditeurs l'auraient entendu une fois.
Je sais que vous avez dansé dessus ce week-end.
J'ai dansé tout le week-end dessus, ouais, le téléphone n'a pas dû arrêter de sonner. Universal Music par-ci, Polydor par-là, on vous veut, signez-la. Merci d'être malgré tout resté fidèle à France Inter et à
pas
votre métier principal, le journalisme finalement. Chaque jour, Manon, vous devancez l'actualité pour deviner, via l'analyse des réseaux sociaux, ce dont on va parler demain.
Oui, et est-ce que vous avez déjà reçu la photo d'une femme nue sans l'avoir demandé, Mathieu?
J'allais répondre oui, mais non du coup.
Ah oui, mais non. Eh bien, figurez-vous que cette pratique porte un nom, le cyberflashing. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
C'est une pratique répandue, ça ?
Une pratique très répandue sur les réseaux.
Drôle de monde. Face à vous, Manon, un garçon qui a enfin révélé jeudi dernier son véritable visage après 4 semaines de gentillesse de façade, de fausse bienveillance. Celui qui s'était présenté comme un genre de bisounours 2.0 trahissait sa véritable nature en me lançant en direct, je cite, « Vous, de toute façon, vous n'avez pas vécu, vous avez passé 14 ans dans le privé à cirer les pompes de Stéphane Bern. »
Ce qui est pas faux.
Bien envoyé.
Des mots terribles qui m'ont dévasté. Je vous le dis, Quentin, j'ai pas fermé l'œil du week-end. J'ai même failli ouvrir le gaz avant de me raviser, car vu son tarif, je n'avais pas les moyens de mon suicide. Et j'aimerais vraiment, Quentin, que dans la mesure du possible, vous redeveniez ce petit bisounours mignon que vous étiez dans les premières semaines. C'est possible ?
Vous voulez qu'on fasse la paix ?
Oui. Et puis, alors sinon, vous pouvez vous rattraper avec un joli petit micro-trottoir ?
Ah, bah c'est le cas. J'en ai préparé un. Je suis venu vous voir dans la rue pour vous parler de la science de l'attribution, de l'attribu quoi. C'est un bon résumé des réactions que j'ai eues dans la rue au micro de France Inter, car les gens sont comme moi, la plupart du temps, un peu perdu sur la météo et sur le temps en général.
Aux alentours de 16h30, ne manquez pas le toujours trépidant Zoom Zoom Test, un quiz dont non seulement le thème change tous les jours, mais les règles aussi. En fin d'émission, vous retrouverez l'impertinence de Marine Bausson qui se chargera de nous donner sa vision de notre sujet du jour. Mais pour l'heure, accueillons l'homme de la situation pour nous expliquer cette science de l'attribution. Bonjour Robert Votard.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes également chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, membre du World Weather Attribution, une initiative internationale destinée à analyser l'influence du changement climatique sur les phénomènes météorologiques extrêmes. C'est donc que non seulement vous savez ce qu'est la science de l'attribution, mais que vous la pratiquez au quotidien, Robert.
Oui, absolument. Alors, savoir ce que c'est que la science de l'attribution, c'est peut-être un peu aller loin, mais en tous les cas, on essaye. Effectivement, de, comme vous le disiez, de faire le lien entre les choses qu'on vit tous les jours et malheureusement parfois des catastrophes naturelles et puis les grands phénomènes comme le changement climatique.
Et c'est une science qui est très opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a des résultats facilement, on a les bons outils pour obtenir ces résultats aujourd'hui ?
Alors, oui et non, pas tout à fait en fait, parce que c'est vrai que on a une panoplie d'outils. Mais on arrive encore pas complètement à, comment dire, à répondre aux questions finalement, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est les questions que le public pose, que vous posez, vous les journalistes, et parfois on est un petit peu démunis parce que on n'a pas complètement la réponse, on n'a pas encore les outils. Donc ça c'est un peu triste, mais en même temps ça donne aussi du grain à moudre pour la science future.
Alors Robert, autour de cette table et certainement de l'autre côté du poste, on est nombreux à être très intéressés par cette science de l'attribution, mais il y a une personne qui l'est encore plus, c'est celle qui veut à tout prix éviter les phénomènes climatiques dangereux pour ces deux semaines au soleil, à Noël. Cyril Lacarrière, vous êtes le rédacteur en chef de cette émission, ce qui signifie globalement que vous passez votre temps caché en régie à hurler des critiques dans mon casque, mais chaque après-midi vous descendez quand même dans l'arène pour nous raconter les origines de notre expression du jour. Alors la science de l'attribution, d'où ça sort?
C'est un concept encore très peu connu du grand public, auquel on s'attaque aujourd'hui, Mathieu. Moins connu, en tout cas, que votre goût pour les sandwichs au camembert à 8h20 du matin.
Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche.
Voilà, donnez-lui du gras. Donc, la science de l'attribution, d'où ça sort? En fait, il ne faut pas remonter très loin pour retrouver l'origine de notre concept du jour. Cette science apparaît en 2004, après la canicule estivale qui a frappé le continent européen l'année précédente. L'idée est alors de mettre en lien changement climatique et événements météorologiques. Comment le premier influence le second? C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer durant cette émission. Cette idée, Robert Votard, vous l'attribuez à Klaus Hasselmann, qui a reçu le prix Nobel de physique l'an dernier. Cet océanographe et modélisateur du climat, qui se trouve aussi être allemand, s'est demandé quelle méthode mettre en place pour essayer de démontrer scientifiquement la manifestation du changement climatique. En 2015, le World Weather Attribution, dont notre invité est un membre éminent, vous l'avez dit Mathieu, se spécialise sur ce sujet et avec un but, vous me permettrez de simplifier, passer les catastrophes naturelles qui frappent notre planète à des grilles d'analyse pour nous permettre de dégager des tendances ou réaliser des simulations. Une science jeune donc, en plein développement, mais qui a de l'avenir, contrairement aux artères de Mathieu Noël, dont le régime alimentaire inquiète jusqu'aux plus hautes sphères de Radio France.
J'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande deux fois par jour, il ne faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille.
Alors sera-t-il dans le studio demain? Rien n'est moins sûr. Heureusement, la relève est prête et le réchauffement climatique n'y changera rien.
Et l'histoire, ça aussi.
Il est content. Je comprends pourquoi vous m'avez enlevé votre texte du dossier que je consulte avant l'émission. C'était pour ces petits tacles. Robert Votard, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen pour parler de ce mot, de cette expression encore mal connue, mais qui est au cœur de notre époque, et notamment des enjeux climatiques. On vient d'entendre où était née cette idée de lier comme ça changement climatique et phénomène météorologique. C'est donc quelque chose de très récent. Comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé avant? Ça paraît assez logique finalement.
Alors en fait, voilà, Klaus Hasselmann savait, enfin tous les climatologues savaient dès les années 80-90 qu'on allait avoir affaire à un changement de grande amplitude, mais malgré tout, on connaissait pas dans le détail les manifestations sur la météorologie, sur un certain nombre d'autres choses. Et donc, Klaus Hasselmann, à l'époque, hein, en fait, avant la canicule, bien avant de la canicule de 2003, avait imaginé tout un ensemble de méthodes statistiques. Hein, donc, il avait une grande connaissance des statistiques pour essayer de dire, mais comment on va faire pour pouvoir prouver que ce qu'on observe, c'est bien ce qu'on avait prévu, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la météo, elle est chaotique, elle change tous les jours, elle change même d'une année à l'autre. Donc, finalement, ce qui change, est-ce que c'est le changement climatique ou pas? Finalement, il avait mis au point ces méthodes. C'est après des Britanniques, effectivement, Miles Allen et Peter Stott, en 2004 et 2005, qui ont mis en place les concepts.
Pourquoi 2003 a été un tel tournant? C'est l'année de la canicule, vous avez eu envie de prouver des choses cette année-là? Qu'est-ce qui s'est passé chez les climatologues?
Les concepts ont été produits par Miles Allen avant en fait la canicule de 2003. Les études sont sorties après, il s'est trouvé que c'est un peu un hasard. Mais la canicule a permis déjà un terrain d'études concret d'un phénomène qu'on n'avait jamais vu de son vivant, des températures pareilles sur une période aussi longue. Mais les concepts étaient déjà là et ils étaient là parce que les climatologues avaient des modèles qui commençaient à être fiables. Et puis, on avait des ordinateurs qui nous permettaient de faire des calculs sur des grands ensembles de données. Donc, on pouvait commencer à se dire, on va aborder cette question
oui, avant,
de façon
on n'avait pas les outils pour faire non. ça. En tout cas, la science de l'attribution, voilà. On pouvait l'imaginer, mais on ne pouvait pas la faire.
Absolument.
Il y a des pays, Robert, où on n'a pas besoin de la science de l'attribution pour deviner qu'il va pleuvoir. L'Angleterre, par exemple, heureusement, pour compenser, ben, ils ont Blur, Country House sur Inter. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it grates on him. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back. It's a helping hand that makes you feel relatively blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that haunt start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Fish have come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Vous êtes bien dans Zoom Zoom Zen, l'émission qui se propose de décortiquer notre époque et ses concepts, parfois fumeux, parfois passionnants, comme aujourd'hui la science de l'attribution, cette science dont on parle beaucoup et qui s'emploie à mesurer l'impact du dérèglement climatique sur la fréquence et l'intensité des événements climatiques, sécheresses, inondations, tempêtes. Pour en parler, nous sommes en studio avec le climatologue Robert Votard. Vous dites, Robert, que par exemple, grâce à vos travaux, on sait désormais que le réchauffement climatique a rendu les inondations en Allemagne et en Belgique 9 fois plus probables et la vague de chaleur au Canada 150 fois plus susceptible de se produire en 2021. Comment est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer votre méthode de recherche à un public de béotiens ?
Alors, la première chose, c'est que ce ne sont pas les inondations que nous avons attribuées, ce sont les pluies qui ont conduit aux inondations. Donc ça, c'est la première chose. C'est très important parce que on a besoin de mesures, on a besoin d'observations de longues séries. Sinon, on peut pas travailler. On a besoin de recul dans le passé, on a besoin d'au moins, on va dire, 40 ans d'observation. C'est pas rien. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à tout faire encore, d'ailleurs. Alors, sur les pluies, on a ces 40 ans, on a même plus que ça. On commence par se poser la question, bah, finalement, cet événement-là, comment il se situe dans la climatologie des 50 ou 70 dernières années, voilà. Et puis, bah, on se dit, bon, c'est vrai que c'est un phénomène exceptionnel, mais on en trouve un petit peu autour aussi. Et donc, finalement, on se pose la question de savoir comment, parce que ça fluctue d'une année à l'autre, les pluies, comment, là, finalement, au lieu de regarder juste un événement, comment le type d'événement qu'on vient de voir, c'est-à-dire des pluies très fortes, supérieures à 100 mm, par exemple, en un jour, là, c'était peut-être pas exactement 100 mm, mais c'était pas loin, comment, finalement, la fréquence de ces pluies a changé. Parce que on a toujours des gens, c'est vrai, qui nous disent, bah, on a déjà vu un événement comme ça en 1940, je sais pas combien.
Ah oui, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Ben, on leur dit, oui, bien sûr, mais vous avez vu un événement comme ça qui est totalement isolé dans les années 40, mais
nous,
là,
on en voit plusieurs.
Dans les 10 dernières années, on en a beaucoup plus. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est pas l'événement lui-même, mais c'est sa fréquence, sa probabilité, son risque, les risques associés. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de capturer, c'est la nature probabiliste, comme on dit, hein, des choses, la nature statistique des choses. Donc ça, c'est une première chose, mais pas seulement. On voit aussi que dans certains événements, on a des amplitudes, des intensités qui n'ont jamais été vues. Par exemple, lorsqu'on regarde les températures qu'il y a eu en Colombie-Britannique, au Canada, en 2021, l'année dernière, on a des 49 degrés à nos latitudes, quoi, hein, quasiment. Donc là, on a des températures qu'on a jamais vues, en tout cas dans les enregistrements. Donc on se pose aussi la question de savoir si l'intensité des phénomènes n'a pas changé. Et on trouve effectivement que dans certains cas, non seulement la fréquence, mais les intensités sont plus fortes aujourd'hui.
L'intensité, mais est-ce qu'il peut y avoir un changement de nature des événements météorologiques? Par exemple, est-ce qu'on pourrait voir en France des typhons, enfin des choses qu'on voit plutôt aux États-Unis?
Absolument. Donc ça
peut arriver.
Alors les typhons. Alors, on appelle ça des ouragans sur l'Atlantique, ou des cyclones ou des ouragans. C'est pas interdit. D'abord, ça s'est déjà produit. Il y a déjà des ouragans qui sont arrivés sur les côtes européennes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces ouragans, avec le changement climatique, en fait, ils se décalent un peu vers le nord, hein, effectivement. Donc, l'endroit où ils sont le plus intenses est un petit peu plus au nord aujourd'hui qu'il ne l'était avant, et ça va continuer à migrer un petit peu vers le nord, ce qui laisse tout à fait la possibilité à des ouragans d'atterrir sur les côtes européennes.
Oui, mais on me regardait pas comme ça, je le sentais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Face à vous, Robert, lui, il a été à l'origine d'une tempête médiatique, celle-là qui a agité le petit monde du rock'n'roll à l'époque de la sortie de son premier EP. Danse sous les draps, son deuxième single ayant rencontré autant de succès que le premier. Quentin, lui, a choisi de se recentrer sur sa carrière journalistique. Il est bien fait. Il est notre porte-parole. Il est votre porte-parole dans Zoom Zoom Zen. Puisque Quentin, c'est votre job, vous descendez dans la rue, parlez de notre thème du jour à nos auditeurs. Alors, la science de l'attribution, ça leur parle?
Honnêtement, à peu près autant que Danse sous les draps. À peu près. Arrêtez quelqu'un dans la rue, parlez-lui de la science de l'attribution. Personne n'a su vraiment me répondre, hein, forcément. On a pu discuter. Je vous emmène avec moi, et c'est sous un abribus que commencent nos rencontres du jour. Je m'approche de ce monsieur, les cheveux grisonnants, la veste marron, une petite mallette en cuir dans la main. Bonjour, quel est votre prénom?
Karim.
Vous avez quel âge?
Ah, je viens d'avoir 65. Et je serai à la retraite jeudi. Vous savez, quand vous travaillez 41 ans, hein. Ça fait quelque chose, je sais pas, les larmes et tout, c'est ça. Hein,
je lui explique notre sujet du jour.
La science de l'attribution. Oui, mais est-ce que vous croyez que ça vient de l'homme? Moi, j'y crois pas, tout ça.
Ça vient de quoi?
Je sais pas, c'est la nature. Hein. Je vois, c'est la nature, tout simplement.
Vous pensez qu'il n'y a pas un lien entre nous et...
Ah non, 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 non. Là, je prends le bus, j'ai rendez-vous, là. Désolé. Hein. Merci. Hein.
Au revoir.
Au revoir.
Karim s'enfonce dans le bus comme il file vers sa retraite. C'est maintenant Jeanne qui s'approche de moi. Elle est étudiante en droit. Elle me demande de lui expliquer le sens de ce qui est écrit sur ma pancarte, que je fais lire aux passants, la science de l'attribution.
Ça fait paniquer un peu. Surtout cet été, on s'en est rendu compte. Et là, en fait, c'était juste du concret. ce qui s'est passé en Gironde, les gros orages, la grêle, ce qu'il y a eu au Pakistan. Enfin, donc moi, à 21 ans, ben, en fait, ça me fait peur parce que les gens qui sont grands et qui ont du pouvoir actuellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Enfin, il y a des paroles, etc., mais les actes, j'ai l'impression que ça ne va jamais aboutir.
C'est en quittant Jeanne que je tombe sur ce jeune homme, les cheveux courts, le sweat oversize violet pastel, le bas de survêt, il est assis sur un Vélib en train de scroller sur son portable. Il a la trentaine et il me confie qu'il est humoriste et qu'on peut d'ailleurs voir ce qu'il fait sur TikTok. Sa chaîne s'appelle Mehdi, tu connais ? Moi, je ne connaissais pas. On parle écologie et lui, il veut plutôt être optimiste. Il trouve que les choses changent.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils sont plus concernés par ça. Donc déjà, c'est cool, tu vois. Pourquoi il faut... Attendez, le froid est déjà revenu. Les amis, il faut être heureux, là, ça y est. Non, franchement, on va essayer. Les rapports du GIEC, bon, vous tombez tous les ans. C'est que des mauvaises nouvelles. Si vous pouvez faire quelque chose... Vous nous mettez juste une petite interligne positive, vous nous mettez un petit truc, voilà. On n'en demande pas beaucoup. Hein.
Je change de rue et avant de traverser le passage piéton, je vois cette jeune femme. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Cécile.
Cécile, vous avez quel âge ?
35. Je suis chargée de communication et événements.
Là, vous n'êtes pas toute seule ?
Et non, j'ai une petite fille avec moi qui a 3 mois. 4 mois, 4 mois.
On voyait une petite tête dépassée de sous son menton, oh comme ça. On rassure... Enfin, je lui fais lire d'abord le concept du jour de Zoom Zoom Zen.
La science de l'attribution. C'est supposé me faire réagir.
Est-ce que ça vous dérange ?
Pas du tout. Mais je vous avoue qu'avec le bébé, je suis pas du tout...
On rassure Cécile, cette science est encore toute nouvelle et on est justement là pour tout expliquer. Je lui parle du rôle de l'homme dans le changement climatique.
Ouais, je pense que c'est un sujet auquel on pense souvent, enfin surtout en effet avec tout ce qui s'est passé cet été. Ça et la guerre en Ukraine, je pense que ça a été les deux sujets peut-être les plus inquiétants en fait quand on a un enfant là.
Qu'est-ce que vous vous dites sur votre enfant qui a 3-4 mois là et qui est contre vous pour l'instant ?
C'est pas très rose ce que j'ai en tête, donc c'est assez triste. Des fois, on se demande si ça vaut le coup de faire encore des enfants.
Et vous l'avez fait pourtant, vous ?
Et pourtant, je l'ai fait, mais c'est peut-être très égoïste d'ailleurs.
Elle me parle aussi des efforts qu'elle fait au quotidien, le tri, faire attention au gaspillage, etc.
Maintenant, je pense que ça tient pas qu'à ça. Et puis, de toute façon, très honnêtement, je pense que s'il faut qu'on fasse des efforts chacun chez nous, il faut qu'il y ait des règles et des lois. En fait, laisser les gens faire un peu comme ils veulent. Si vous voulez, c'est bien de faire attention à pas prendre de bain. Ou...
Comment on va faire ça ? On peut pas aller contrôler les gens s'ils prennent des bains ou pas ?
Bah si, tu dépenses d'eau par an, ça se contrôle.
On peut la limiter.
Voilà. Non mais il y a un moment où je suis persuadée que si on veut aller mieux, il faut en arriver à là. Et on l'a vu avec le confinement. Si il y a des choses qui se sont beaucoup mieux passées écologiquement avec le confinement, parce qu'on n'a pas eu le choix en fait.
Ne pas avoir le choix, contraindre les hommes, est-ce que c'est la solution pour tenter de limiter le dérèglement climatique avant qu'il ne soit trop tard ?
La question est posée. Vous écoutez Zoom Zoom Zen, une heure de bonne humeur utile pour se coucher un peu moins bête ce soir. Et ce soir, si tout se passe bien, vous aurez compris ce qu'est la science de l'attribution. Cette science qui cherche à mesurer le rôle du dérèglement climatique sur tel ou tel événement climatique précis. On en parle avec notre invité, le climatologue Robert Vaudard. Je pense qu'il faut faire un point à l'issue de ce micro-trottoir, puisqu'on parle de la science de l'attribution qui est le lien entre donc le réchauffement climatique et tel ou tel événement climatique. Mais il y a une autre attribution qu'on va... trancher tout de suite, parce qu'il y a encore des gens qui visiblement ont un doute. Aujourd'hui, quand on est climatologue, il n'y a pas de débat, il n'y a plus aucun débat. Le réchauffement climatique est dû à l'homme. On est d'accord là-dessus. Repart de là, des bases.
Oui, c'est la base. Il n'y a plus de débat. Toutes les preuves sont là, aussi bien les observations que les simulations numériques qu'on peut faire. Les activités humaines sont responsables intégralement, je dis bien intégralement, parce que de temps en temps, on entend partiellement, non, intégralement, du degré...
C'était ma question suivante.
Voilà. Donc, les émissions dues aux activités humaines sont responsables intégralement du degré 1 ou 2 supplémentaires globalement qu'on a depuis le milieu du XXe siècle, même depuis le début du XXe siècle. Hein. Donc, c'est intégralement, c'est pas partiel.
Il n'y a pas à tourner autour du pot. Quentin, lui.
On a entendu Mehdi qui s'adresse au GIEC en leur demandant de mettre dans leur rapport, je cite, une interligne avec au moins une bonne nouvelle dedans. Est-ce que vous pouvez nous en donner une de bonne nouvelle ?
Alors oui, j'en ai une bonne, c'est qu'il y en a plein de bonnes nouvelles dans les rapports du GIEC. Il ne faut pas lire que les mauvaises. Il y en a plein des bonnes nouvelles sur les solutions, notamment. Hein. Aujourd'hui, on sait que les solutions sont en place pour réduire très très fortement, voire anéantir les émissions de gaz à effet de serre. Ça prend bien sûr du temps, ça demande qu'on en soit un peu convaincu. Et puis, il y a des solutions qui vont nous amener à avoir aussi une vie plus saine. Par exemple, simplement lorsque on remplace la voiture par le vélo, on va réduire l'obésité, par exemple. C'est une des conséquences. On réduit la pollution atmosphérique. Il y a plein de... Tout en pouvant continuer à avoir une vie tout à fait normale. Donc, il y a plein de choses comme ça. En fait, il y a plein de bonnes nouvelles. Il faut juste les voir comme des bonnes nouvelles. Ce qui est difficile, c'est qu'il va falloir un peu tout changer, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ça demande un changement à très, très grande échelle. Mais c'est faisable.
Voilà. Alors, les études scientifiques de l'attribution aboutissent à des résultats assez nets, d'après ce que j'ai lu. Dans une tribune publiée dans Libération hier, votre collègue Françoise Vimeux écrit « Les études scientifiques d'attribution montrent que la survenue de certaines vagues de chaleur récentes, comme celle que le territoire hexagonal a connue en juillet 2019, aurait été presque impossible dans un climat non modifié par les humains. » Donc là, au moins, tout est net.
Absolument. Pour les vagues de chaleur qu'on rencontre ces dernières années, il n'y a aucun doute, le niveau des températures obtenues n'aurait pas pu, ou quasiment pas pu, ou avec une probabilité extrêmement faible, se produire sans ce réchauffement climatique qui vient doper en quelque sorte ces événements-là et qui vient pousser leur intensité à des sommets, quoi.
La science de l'attribution, on a compris qu'elle permettait d'établir des modèles, mais elle permet aussi d'anticiper probablement ce qu'il faut faire pour nos comportements, mais aussi peut-être d'un point de vue matériel, d'anticiper des inondations, je ne sais pas, des incendies.
Alors, c'est là où les choses se compliquent un petit peu, évidemment. Nous, on regarde le passé, donc on regarde à la fois des observations historiques et des simulations qui ont été faites sur la période passée. Mais lorsque ces simulations et ces observations coïncident en termes de tendance, on se dit qu'on peut avoir plus de confiance dans nos modèles, donc des prédictions qu'on fait pour le futur. Lorsqu'elles ne coïncident pas, on ne peut pas dire grand-chose. Voilà.
C'est
non, mais c'est très simple.
Est-ce que les réseaux sociaux participent à cette science de l'attribution parce qu'ils permettent de voir en temps réel ce qui se passe au niveau changement climatique dans le monde? Est-ce que vous les utilisez, vous, par exemple?
Oui, je les utilise énormément et nous les utilisons beaucoup parce que une des raisons pour lesquelles on fait ça aussi, c'est que ça permet de pouvoir communiquer de façon pédagogique sur les événements, à partir des événements qu'on vit, et de communiquer sur le changement climatique. Oui. Les événements sont en quelque sorte une représentation concrète du changement climatique qui, vous l'admettrez, 1 degré globalement, c'est un peu abstrait, quoi, pour beaucoup de gens. Donc là, un événement particulier, les vagues de chaleur en particulier sont particulièrement impressionnantes, et ça permet de communiquer en disant et de calculer, de faire des calculs de si on n'avait pas eu de changement climatique, est-ce que de combien aurait été la probabilité d'avoir ce truc-là. Ça permet de quantifier, de faire des représentations, mais aussi de représentation du futur. Dans chaque exercice d'attribution, on essaye de aussi projeter l'événement dans le futur, pour dire combien de si ça devient la normale ou si ça va.
Et quelle sera surtout la température de l'eau à l'île Maurice pour Cyril Lacarrière à Noël. On continue à parler science de l'attribution avec vous, Robert Votat, juste après un trio transgénérationnel assez émouvant. Quand Big Flo et Oli rencontrent MC Solar, ça donne de bons élèves sur France Inter.
Flash, photographe, autographe, et puis crash. Tout le monde te lâche, oui, le monde peut être trash.
Je suis un produit, moi et mes mots, que l'on consomme en chantant mes sentiments dans des morceaux, sur des albums que je vends. Je pense aux concerts, je pense aux radios, à la télé, et évidemment. Je donne ma chair, mes idéaux, et je ressens un vide en moi. Est-ce qu'on devient toujours ce qu'on dénonce? Mes fans m'appellent par mon prénom. Tic-tac, tic-tac, c'est le décompte. Ils veulent de moi toutes les réponses. Bien sûr que j'ai exagéré un peu. En vrai, je vous connais pas. Et je vois bien qu'Oli le vit mieux que moi. Que des deux, je suis le moins sympa.
Ils disent tout ça.
Le rap m'a sorti sa facture. Moi qui l'avais appelé au secours. Des milliers d'inconnus qui m'aiment. Comment tous les aimer en retour? On a beau le dire, mais dans l'absolu, pourquoi on oublie l'atterrissage? Voilà l'ironie. Je voulais être connu. Et maintenant que je le suis, je cache mon visage. Et plus on s'élève, plus on
on s'enlève de ce qu'on surplombe. Tout le monde veut devenir célèbre, tous les gens célèbres voudraient être tout le monde. Alors oui, je bois pas, je fume pas, je suis un exemple pour la génération. Mais j'adore le casino et le sexe et j'en parle jamais dans toutes mes chansons.
Tu vois qu'on se lâche.
Les bons élèves, premiers de la classe, je crois que c'est pas si vrai, enfin je sais plus trop. Les adultes voudraient faire de nous des exemples, de nouveaux symboles caricaturaux. Et le rap me regarde de travers, il aimerait que je dévoile tous mes défauts. Il me défie, je mets les formes et il revient malgré tous mes efforts. Je suis qu'un artiste, j'écris forcément pour les gens. Je ne suis pas que mes désirs, la frontière entre ce qui me plaît vraiment et ce qui vous fera plaisir. À chaque fois je recommence pourtant, ma vie et mes vœux, je t'ai en pâture. Oli m'a dit donne tout pour les gens, tout ça c'est grâce à eux, mais j'en suis pas sûr.
Ce qui se façonne avec le temps s'en va avec le temps. Et c'est les têtards qui se prennent pour les meilleurs de tous les temps. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Mama, je suis une star, pardon si je ne réponds pas. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Mama, je suis une star, pardon si je te réponds pas.
Dis-moi pour qui j'écris, entre vous et moi, une fine ligne. En vérité, je porte mon humilité comme un bling bling. Ai-je raison de lutter contre le temps comme un grand têtu? Réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu. Séparer l'homme de l'artiste, si t'as une scie, j'en ai bien besoin. Presque heureux d'être triste, tant pis si ça m'inspire un bon refrain. Égocentrique, je m'appuie sur le cœur des autres pour être à la hauteur. Je fais des titres sur les histoires de mes potes sans leur donner deux droits d'auteur. Privilégié, je vis le rêve de beaucoup, je m'accorde même une pause. Regarde-moi, j'ai fait des milliers d'euros en racontant ma vie de pauvre. J'ai fui les problèmes du quotidien, sur ma voile j'ai laissé souffler le vent. Je n'aurai jamais d'horaire, mais on me dit merci d'avoir trouvé le temps. Le succès,
le succès,
le remède pour ma confiance. Est-ce que c'est ce petit malade que je viens visiter, ou bien c'est ma conscience? J'ai amplifié mes souffrances, j'ai emballé mes douleurs. Est-ce que ma tante me rait en fond d'écran si j'étais boueur?
Ben non.
Est-ce que c'est le hasard s'il y a art dans le mot arnaqueur? J'ai jamais dit non, je me cache derrière l'humeur de Flo ou le mail du manager. T'as vu comme mon lit est simple, je me nourris de vos commentaires. Mon esprit de sensu ira même jusqu'à censurer notre documentaire. Je parle de moi, j'ai mes trophées dans le salon, je retweet si tu me cites. J'aime aller voir les concerts des autres artistes, surtout si la salle est plus petite. Je serre des mains et je fais des photos, je suis presque devenu un politique. Et je veux tellement être exemplaire
que tu rappes ton autocritique.
France Inter, Zoom, Zoom, Zen.
En quoi le réchauffement climatique rend-il plus probable ce typhon aux Philippines, cette inondation au Pakistan? C'est la question que se posent les scientifiques de l'attribution. On en parle aujourd'hui avec l'un d'entre eux, le climatologue Robert Votard, dont on aimerait qu'il modélise également les probabilités pour Quentin de remporter un jour le quiz. Oui, c'est l'heure du Zoom Zoom Test et on va partir aujourd'hui à la découverte des phénomènes météo les plus étranges du monde. On va voir si vous êtes aussi calé en climatologie que notre invité Robert Botard. Spoiler alerte, ça m'étonnerait. On commence avec un chercher l'intrus.
Oula.
Oui, je vais vous citer 4 phénomènes météo hors normes, à vous de me dire lequel existe vraiment. A. Le serpentin bolivien. B. L'anaconda à l'ensonnet. C. Le serpent de Maloja. D. Le piton de Las Vegas.
Ah, réponse
d'après
A.
Vous.
Réponse C.
Le serpentin bolivien. Réponse C, le serpent de Maloja. Oui. Les serpents, on aime les reptiles. Bah,
exactement.
Hein.
Ouais.
C'est une bonne réponse.
Oh là
oui,
là, magnifique.
Et vous n'êtes pas à côté de notre invité Robert, pour rien.
Exactement.
À mon avis, et c'est un gigantesque serpent de nuages, figurez-vous, magnifique, qui se faufile entre les pentes des montagnes du col de Maloja en Suisse. Phénomène unique qui se produit été comme hiver quand une situation anticyclonique se combine avec un vent de sud-ouest. Ça, je l'ai toujours su. On peut voir ce fascinant serpent dans le film Sils Maria, film que je vous conseille. Le serpentin bolivien n'existe pas, l'anaconda à l'ensonnet non plus, seulement dans la tête de Quentin lui, puisque c'était son pseudo sur Adopte un mec.
Oh.
Quant au piton de Las Vegas, c'est un film culte des amateurs de nanars des années 70 qui contient une des meilleures répliques de l'histoire du cinéma.
Mais d'où vient ce foutu serpent de merde?
Oh, c'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes.
Oh non.
Eh oui, il avait bondi des toilettes dans une scène tout aussi mythique.
Oh,
attention, prenons maintenant la direction du Venezuela. Et plus précisément, le nord-ouest du Venezuela, à l'embouchure du rio Catatumbo. Un nom célèbre, voire mythique pour les climatologues, pas pour vous, vu vos gueules. Pourquoi le nom de Catatumbo est-il si célèbre? A. Parce que c'est l'endroit le plus pluvieux de la planète. B. Parce que c'est au contraire le seul endroit où il ne pleut jamais. Ou C. Parce que c'est l'endroit le plus orageux du monde.
C. B.
Alors pour vous, c'est le plus... C'est... Et vous, Manon ?
Orageux, j'ai dit.
Vous dites le C.
Oui.
Et vous êtes toujours à côté de Robert Votin, notre invité. Oui ! C'est l'orage le plus persistant du monde, l'orage éternel, on l'a surnommé là-bas. Il se produit en réalité, ce qui est déjà pas mal, entre 140 et 160 nuits par an, au-dessus du lac de Maracaibo. En moyenne, la foudre s'abat 28 fois par minute et l'intensité enregistrée atteint jusqu'à 300 000 ampères. Contre combien d'ampères pour un orage normal, Quentin ?
300 000 50 000, pardon.
50 000,
c'est ça ?
On vous aura soufflé en régie, probablement. Là, j'étais censé vous enlever un point pour définitivement vous humilier. Non, d'accord, un point. Très bien, très bien. Très bien. Retenez ça, l'orage de Catatumbo. Les scientifiques s'interrogent toujours quant à la raison de ce phénomène. Robert, on a une idée, on sait pourquoi. Et cet orage permanent là-bas, c'est quand même bizarre.
Non, pas vraiment. Hein. Je peux vous donner des indications. C'est la présence de montagnes avec le contraste terre-mer. Des contrastes très très forts. La zone, ce qu'on appelle la zone intertropicale de convergence, donc la région équatoriale où se produisent les orages de façon quasi permanente aussi, même c'est toute une ceinture autour du globe, mais là voilà, elle traverse la Terre à cet endroit-là.
Tous les ingrédients sont réunis à cet endroit.
Voilà.
Attention, top ! Je suis une grande ville française célèbre principalement pour deux choses. Sa place centrale, élue l'année dernière plus belle place d'Europe, sous les auspices de l'excellent Stéphane Bern, à qui j'adresse un bisou. Et je suis également la ville d'origine de l'épouse du présentateur de Zoom Zoom Zen. Accessoirement, je suis connu pour être régulièrement la ville la plus froide de France. Je suis...
Place Stalingrad.
La place Stanislas. La célèbre Stanislas. Place Stalingrad.
Stanislas,
oui.
La ville la plus froide de France.
Ah oui.
De France.
C'est Nancy ? Non.
Strasbourg ?
C'est
Nancy.
Nancy, c'est une bonne réponse de Quentin, lui. Nancy en Lorraine, sur les rives de la Meurthe, place Stanislas. Effectivement.
Place
Stanislas. Top. Je suis l'antithèse climatique de Nancy. Je suis régulièrement la ville la plus chaude de France. La seule grande ville à dépasser les 16,5 degrés en moyenne annuelle. Sachant que l'été, il peut y faire beaucoup plus chaud, notamment quand Quentin, lui, prend ses quartiers d'été dans ce département très prisé des estivants amateurs de claquettes chaussettes. Je suis également célèbre pour mon port. Un port
Marseille.
Entré dans la légende
Saint-Tropez.
De l'histoire maritime depuis que le présentateur de Zoom Zoom Zen y a passé
Saint-Tropez.
Son permis. Catégorie côtier en 2013, je suis une grande ville.
Nice.
Je suis une grande ville.
Nice.
Robert.
En territoire d'outre-mer.
Non, c'est dans le Var et c'est le grand port maritime. C'est un grand port où il y a beaucoup de bateaux militaires. Toulon, Quentin revient dans le quiz, c'est magnifique. Enfin, attention, cette question va vous départager. Elle a trait à un phénomène météorologique aussi rare que mystérieux, les pluies d'animaux. Quoi ? Ceux qui ont vu le film Magnolia n'ont pas pu oublier la scène durant laquelle une pluie de grenouilles s'abat sur la ville. Un phénomène plusieurs fois observé au cours de l'histoire dû au passage de tornades sur une zone peuplée de batraciens qui seraient ensuite rejetés plus loin. Mais saurez-vous reconnaître une pluie d'animaux dûment répertoriée d'une pluie d'animaux qui n'a eu lieu que dans mon esprit malade ? Si je vous dis pluie de crevettes, vrai ou faux ?
Vrai ou faux ? Vrai.
Non, c'est faux.
C'est vrai. Pluie de crevettes en Australie, en 1978. Si je vous dis pluie de coquilles Saint-Jacques.
Faux.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est faux. C'est dommage, car comme dirait Cyril Lacarrière, c'est bon, les coquilles Saint-Jacques, surtout avec un peu de truffe. Si je vous dis pluie de tourterelles.
Vrai.
Faux. Faux.
Vrai, en 2011,
non,
en
oh là
Italie.
Là, content.
Si.
Quand même.
Enfin, si je vous dis pluie de poissons.
Vrai.
C'est faux.
C'est vrai. Et ça permet à Manon de remporter une fois de plus le quiz en Grèce en 2002. Pluie de poissons. Vous connaissiez ces phénomènes de pluie d'animaux ? Qu'en pensent les climatologues, Robert ? J'ai l'impression que...
Ils s'en foutent,
j'ai l'impression. À ce moment-là, j'ai l'impression que vous avez décroché. Sur les pluies d'animaux, j'ai senti que vous étiez moins...
Ben disons que c'est formidable, la France Inter, vous m'en apprenez tous les jours, on va dire ça comme
voilà,
ça.
On va au bout de l'info ici. La science de l'attribution, ça c'est sérieux, et comment ça marche ? À quoi ça sert ? On en parle aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen avec notre invité, le climatologue Robert Votard. Robert, en 2019, les vagues de chaleur ont occasionné 2500 morts en Europe de l'Ouest. Est-ce que vos travaux peuvent permettre au pouvoir public d'anticiper les catastrophes et donc, je ne sais pas, de mettre à l'abri les gens ou de mobiliser des forces de protection ?
Alors en principe oui, l'idée c'est précisément de pouvoir donner des risques futurs, hein, donc de pouvoir dire bah voilà ce qui s'est passé en 2019, il faut s'attendre à ce que ça devienne quasiment la norme, je sais pas, peut-être autour de 2050 si on fait rien pour le climat. Hein. Donc ça permet de mettre en place, en principe, les politiques qui devraient voir le jour, qui ne seraient pas des politiques qui cherchent à parer les problèmes d'aujourd'hui, mais les problèmes de demain. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vécu par exemple un été tout à fait exceptionnel, certes, mais ce genre d'été va se reproduire et on va avoir les statistiques bientôt sur la mortalité. Et il va falloir sortir du paradigme de se prémunir contre 2003. 2003, ça va bientôt devenir fréquent.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer tout simplement les scientifiques de l'attribution dont vous faites partie au gouvernement, à un ministère pour mieux anticiper ? Est-ce que vous êtes en lien avec ces gens-là ?
Alors, je pense qu'il faut, dans l'initiative, des initiatives qui sont là depuis le début d'année, je ne pense pas qu'il faille intégrer des scientifiques dans les gouvernements, mais en revanche, il faut former les décideurs avec les notions scientifiques de base sur le changement climatique. Vous savez, il y a encore... C'est complexe, la science du climat, pour tout un chacun, comme pour des ministres. C'est pas, c'est des choses, il y a des notions qui n'ont pas forcément été apprises à l'école. Donc, je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait une formation, peut-être en plusieurs séances, qu'on puisse faire ça. Intégrer le gouvernement, c'est autre chose.
Quentin, lui.
On va avancer dans le temps, et donc les innovations technologiques aussi. Est-ce qu'on va progresser, on va continuer de s'améliorer sur la météo ? Est-ce que, par exemple, on va pouvoir prévoir que dans 6 mois, il y aura un épisode douloureux de chaleur ou de froid ?
Hélas, non.
Ce sera toujours à 10 jours.
Voilà. 10 jours, peut-être pas. Ça va augmenter un petit peu. On va probablement aller jusqu'au mois. On fait des progrès.
Au mois.
Oui, oui. Okay. Enfin, disons, on va aller vers ça. La météo fait beaucoup de progrès, notamment avec l'arrivée des satellites. Vous savez que pour pouvoir prévoir loin, il faut avoir une vision très, très, très précise de l'instant où on fait la prévision de l'état de l'atmosphère dans tous ses recoins. L'observation est très, très importante. Et on fait beaucoup de progrès dans l'observation, dans les modèles aussi, bien sûr. Donc, de plus en plus précis, intègre de plus en plus de choses. Mais il y aura une limite. On ne pourra pas, malheureusement, prévoir de façon déterministe, c'est-à-dire prévoir les événements comme ça, 3 mois à l'avance. En revanche, ce qu'on espère, c'est pouvoir prévoir des étés plus chauds ou plus froids que la normale ou des choses comme ça. C'est pas encore
des
complètement...
Grandes tendances.
Voilà, ouais. Des grandes tendances.
France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, nous entendrons l'analyse de Marine Baousson sur notre sujet du jour, la science de l'attribution. Mais d'abord, il est temps de quitter un instant notre thème pour nous tourner vers l'avenir avec cette journaliste dont le franc-parler désarçonne parfois Quentin à la cantine.
Ce que tu peux être difficile, ça m'étonne pas que tu sois si petit si tu ne manges rien.
Oh non !
Un franc-parler parfois dérangeant dans les relations humaines, mais extrêmement payant dans l'exercice du journalisme. Chaque jour, Manon, n'ayez pas honte, Manon. Chaque jour, Manon, dans votre veille sanitaire, vous nous dites ce qui monte sur les réseaux sociaux et pourquoi. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une pratique, mais alors très très bizarre, qui se répand sur nos téléphones portables. Je suis choquée d'avance.
Oui, alors si je vous dis cyber-flashing, c'est possible que comme ça, ça ne vous parle pas. Et pourtant, c'est une pratique de plus en plus courante sur les réseaux sociaux. Le cyber-flashing consiste à envoyer une photo de son anatomie à quelqu'un de façon non sollicitée. Un exemple marquant, en août dernier, le passager d'un avion a utilisé la fonction AirDrop de son iPhone pour envoyer une photo de son pénis à absolument tous les passagers. Alors, ce qui n'a pas du tout amusé le pilote qui a menacé les passagers qu'il ne décollerait pas si la personne continuait. Évidemment, le monsieur en question a arrêté l'envoi de ses photos, mais son identité n'a pas été dévoilée. Et c'est d'ailleurs le fond du problème. On n'a aucun moyen de remonter jusqu'à l'expéditeur. La fonction AirDrop de son iPhone est l'option la plus utilisée par les amateurs de cyberflashing, car il suffit d'être à côté d'une autre personne pour lui envoyer une photo sans qu'elle n'ait rien demandé. À titre personnel, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le métro. Du coup, je désactive mon AirDrop tout simplement maintenant. Le cyberflashing est devenu une pratique courante qu'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux.
On est un peu sous le choc de ce que vous nous racontez aujourd'hui. Instagram a décidé de lutter contre cet étrange phénomène.
Oui, la plateforme de photos est en train de mettre en place un nouveau filtre qui s'appelle Nudity Protection. Ça a été repéré par un développeur qui a relayé l'information sur Twitter et confirmé ensuite par Instagram. Alors, l'idée est simple. L'utilisateur aura une option pour filtrer les photos et donner son accord s'il veut les voir ou pas. Tout ça grâce à une intelligence artificielle qui analysera le contenu dit de nudité. Alors qu'aujourd'hui, quand on reçoit une photo, les photos, ça affiche directement. Donc, c'est une grande avancée.
Alors, c'est clair, mais pour autant, toutes les applis ne vont pas suivre cette voie.
Non, et je pense notamment à Grindr, hein, à qui on a souvent reproché sa non-vigilance envers le cyberflashing. Alors, Grindr, pour rappel, c'est une application de rencontres gays, connue pour être très axée sur les relations sexuelles sans lendemain. Forcément, pour eux, le cyberflashing, c'est un business. Ça attire même beaucoup d'utilisateurs, donc pas question pour eux de frustrer leur public. Sauf que même lui commence à saturer sur les forums. Ils sont beaucoup à s'indigner de ce cyberflashing constant sur Grindr. Certains essaient même de lancer des pétitions pour que la plateforme change de politique. Ses opposants disent que ce cyberflashing peut traumatiser les plus jeunes utilisateurs.
Mais au-delà des réseaux sociaux, maintenant, le cyberflashing est devenu un véritable fléau.
Absolument, au point même d'être désormais puni par la loi en Angleterre et en Écosse. Évidemment, les victimes sont principalement des femmes. La plupart des photos envoyées sont des pénis. Et ça touche absolument toutes les tranches d'âge. Une étude britannique révèle que 76% des jeunes filles âgées de 12 à 18 ans, donc pas encore majeures, ont déjà été cyberflashées dans leur vie. Parce que voilà, plus que de la nudité telle qu'elle, le cyberflashing, c'est aussi une agression, une décision délibérée d'envoyer une photo non consentie à une autre personne. Psychologiquement, ça peut être traumatisant, d'autant plus pour des jeunes filles. Elles racontent d'ailleurs souvent qu'elles ont un temps de sidération quand elles reçoivent ce genre de photos. Alors, il faut le rappeler, mais envoyer un nude, quel qu'il soit, doit être une décision consentie par les deux personnes, hein, celui qui envoie et celui qui le reçoit. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de pratique que certaines applications de rencontres, comme Tinder, n'autorisent pas l'envoi de photos dans les conversations. Le cyberflashing est une forme d'harcèlement sexuel et il est temps que les applications grand public s'en rendent compte.
Il est temps, en effet. Merci pour cette chronique édifiante, Manon. Vous avez terminé cette chronique pile à l'heure. Je crois qu'on ne peut pas fêter ça autrement qu'en écoutant Right on Time, Métronomie sur Inter.
Time. So for now, let's enjoy.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Il y a des gens qui prétendent s'y connaître en sciences de l'attribution, comme notre invité, le climatologue Robert Votard. Et puis il y a ceux, Robert, qui s'y connaissent vraiment. Bonjour Marine Baousson.
Mais bonjour, mais non, mais je ne connaissais pas la science de l'attribution, mais j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Et si j'ai bien compris, ça consiste à demander à des climatologues, qui sont un petit peu des genres de Miss Météo super calés, de mesurer à quel point on est dans la merde et c'est chaud. Et donc notre invité du jour, c'est justement une de ces Miss Météo overqualifiées. Bonjour Monsieur Votard.
Bonjour.
Alors je sais que je vous dis bonjour après 50 minutes d'émission, c'est pas très poli, mais mieux vaut tard que jamais. Vous avez compris la blague, Mathieu ?
C'est
pas rapport au nom
de l'invité. En même temps, je suis très affûté intellectuellement.
C'est excellent, c'est excellent. Alors, Monsieur Votard, vous êtes un invité régulier de la Maison de la Radio, et j'ai remarqué que quand vous veniez, en général, c'était pour commenter les derniers rapports du GIEC. GIEC, qui est l'abréviation de J'y ai compris que dalle. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se refaire un petit point sur ce que c'est vraiment, parce que moi, quand j'entends qu'il y a encore eu un rapport alarmant qui est sorti, je pense pas au climat, je me dis « Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait, PPDA ?» Le GIEC, ça veut dire Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bon, ça se la pète un peu pour dire geek des nuages et de la grêle. Mais bon. Ça a été créé en 1988 après qu'on ait réalisé que les humains avaient finalement un impact important sur le réchauffement climatique. Avant, on pensait que c'était juste le soleil, les volcans, les proutes des vaches, bref, tout sauf nous. Alors qu'en fait, c'est tout et surtout nous. C'est pour ça qu'avant, sur le réchauffement climatique, les politiques ne faisaient rien. Mais maintenant, ça n'a rien à voir parce qu'ils ne font rien, mais ils ont les rapports du GIEC. C'est merveilleux. Donc dans les années 80, deux institutions des Nations Unies dédiées à l'environnement et la météo décident de s'allier pour récolter toutes les études menées sur le réchauffement climatique, analyser le bazar et en faire une petite synthèse, les fameux rapports du GIEC qui doivent donner des indications sur les directions à prendre pour les politiques écologiques mondiales. Il y a eu en tout 6 rapports du GIEC, mais rien ne change. En fait, ça fait 30 ans qu'il donne son avis et tout le monde s'en fout. Le GIEC, c'est l'incarnation de la carrière de Nicolas Dupont-Aignan, s'il était écolo et qu'il parlait aux choses que du voile, évidemment. Alors d'ailleurs, ça serait vraiment intéressant que dans son prochain rapport, le GIEC aille au bout du délire et dire « Mince, c'est trop tard, on peut plus rien faire, à la boulette !» Parce qu'on aurait l'air tous très cons. Surtout Mathieu Noël « Mais je faisais pipi dans la douche, on pensait que ça suffirait !» Non Mathieu.
J'ai lu que c'était pas bien de faire pipi dans la douche.
Non, déjà c'est mieux parce que, enfin, un, c'est mieux si l'eau est en train de couler, et deux, il faut en faire plus, et il faut qu'on s'y mette tous et toutes. Alors tous et toutes, allons faire pipi dans la douche de Mathieu.
C'est ça
qu'ils disent dans le GIEC. Mais ce qui est fou, c'est qu'il existe encore des climato-sceptiques. C'est des gens qui disent « Ah non, j'ai vu votre rapport de machin là et je vois pas le lien entre l'activité humaine et le climat, désolé. Ce matin, je suis sortie, hein, bah pardon, mais après avoir mangé mon petit déjeuner composé uniquement de viande de bœuf juste avant de monter dans mon SUV, eh ben, j'ai dû mettre une petite laine. Hein. Donc réchauffement, je ne crois pas, non. » Alors que c'est sûr, on va s'éteindre comme les dinosaures. Et comme Jeanne d'Arc aussi, bon, ça c'est encore un an. Et en tout cas, du coup, la question, elle est ouverte. Est-ce qu'il y avait des dinosaures qui l'ont vu venir, leur extinction ? Et même, est-ce qu'il y avait des dinosaures qui étaient climato-sceptiques, eux aussi ? Est-ce qu'il y en a qui se disaient « Non, j'ai pas vu le rapport, lui, mais je vois pas le lien entre nous et le climat, je suis désolée. Ce matin, je suis sortie, hein, mais pardon, après avoir mangé mon petit déjeuner composé de ptérodactyles, eh ben, j'ai pris aucun corps céleste sur la tronche. Donc, météorite, je ne crois pas, non. » Avec derrière tous les météorux rex et les climatosaurus atterrés qui disent « Si on veut s'en sortir, ça suffira pas de faire pipi dans la mer, ni même dans la caverne du Mathieu Noël-osaurus. » Bon, quoi qu'il en soit, Monsieur Votard, merci d'être venu nous parler de la science de l'attribution. Et Mathieu, on compte sur vous pour que vous continuiez bien tous vos efforts.
Je continuerai à faire pipi. J'ai pas très bien compris quelle était l'étape suivante après faire pipi sous la douche. J'ai très peur de ce que vous insinuez. Je n'irai pas par là. Merci Marine Baousson. On vous retrouve très vite dans Zoom Zoom Zen. Alors que notre émission touche à sa fin, je crois que le pari a été tenu. On se couchera moins bête ce soir puisqu'on saura expliquer à nos amis ce qu'est la science de l'attribution. Si jamais toutefois des auditeurs nous rejoignent seulement maintenant, Robert Votard, est-ce que vous avez la gentillesse de nous rappeler juste le principe de la science de l'attribution?
Ah, c'est très simple. Lorsqu'on observe une catastrophe d'origine climatique, hein, pas un séisme, mais une catastrophe, bah, on se pose la question de savoir quel est le rôle du changement climatique dans la survenue de cette catastrophe. Alors en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on regarde des observations, on regarde des simulations numériques. On a aussi toute notre culture physique de savoir comment réagit le système. Et avec tous ces éléments, on essaye de donner une réponse compréhensible sur ce rôle.
Merci beaucoup Robert Vetter d'avoir été avec nous cet après-midi sur Inter. Merci à Manon Mariani, Quentin Lui, Ghislain Fontana à la réalisation, Félix Delacour à la technique. Zoom Zoom Zen, c'est fini, mais pas en podcast. Là, on est ouvert 24 heures sur 24. Nous, on se retrouve demain 16h. Et évidemment, vous restez sur Inter puisqu'elle est la fière ambassadrice de ce pays qu'on surnommait jadis le plat pays, mais qui, avec le réchauffement climatique, est en passe de devenir la Californie de l'Europe. Bonjour Charline Van Honecker.
La Wallifornie, moi,
la
je viens de
Wallifornie.
Exactement.
La Wallifornie. On vous retrouve tout de suite sur l'antenne
d'Inter. Mais oui, Mathieu Noël, avec San Severino, qui part en tournée avec son album Les Deux Doigts dans la Prise, et seront présents Thomas VDB, Guillaume Meurice, Charline Roux et Thomas Croisière.
Formidable. À tout de suite, Charline.